superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire...
Un politologue, pas comme les autres. Loïc Tassé.
C'est pas le temps de faire ça.
Loïc, bonjour.
Salut, Benoît.
Bon, on commence avec le nouveau tourisme de guerre.
Du beau tourisme de guerre. On a quatre présidents, premiers ministres, qui se sont rendus en Ukraine... Bien sûr, je parle ici d'Emmanuel Macron, je parle du chancelier allemand, du premier ministre d'Italie, et puis il a été rejoint là-bas par le premier ministre roumain. Donc tous les quatre représentent quand même plus de la moitié de la population de l'Europe. C'est quand même pas mal. Mm-hmm. Ils se sont rendus donc visiter Zelensky et ils ont assuré Zelensky que l'Europe étaient du côté de l'Ukraine, et ils ont assuré aussi l'Ukraine qu'ils allaient tout faire pour que l'Ukraine puisse rentrer rapidement dans l'Europe, dans l'Union européenne. Attention, rapidement, ça prend quand même des années. La Turquie, par exemple, est en lice depuis plus de 20 ans. Remarque que c'est un problème particulier, mais pour rentrer dans l'Europe, il faut harmoniser toutes sortes de choses. Il faut harmoniser, par exemple, le code pénal, le code civil, faut harmoniser toutes sortes de réglementations. Donc, c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps. Mais, vraiment, les Européens veulent recevoir l'Ukraine à l'intérieur de la communauté européenne, et ça... Pour les Ukrainiens, bah c'est quand même un message qui est très très encourageant en ce moment. Et plus que ça, et ça c'est aussi très important, le Premier ministre français Emmanuel Macron a dit, vous savez, nous on veut que l'Ukraine retrouve son intégrité territoriale, c'est-à-dire que la Crimée et le Donbass fassent partie de l'Ukraine, donc c'est normal qu'on va appuyer, en d'autres termes, M. Zelensky, quand il va vouloir faire la guerre pour reprendre l'Ukraine, pour reprendre la Crimée.
Ouais.
Donc ça, c'est très très fort aussi comme message. Et puis, ils sont arrivés avec de l'armement. Ils vont donner davantage d'armement aux Ukrainiens. Ça a été, je te dis, très très mal reçu par les Russes.
Oui, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'on a des réactions de Vladimir?
Non, pas de Vladimir, mais on a des réactions de Mendeleev, qui est le premier ministre russe, qui a dit hey, « qu'est-ce que c'est que ça ? C'est des mangeurs de saucisses au foie, de cuisses de grenouille et de spaghettis qui ont été faire un voyage touristique à Kiev. Tu vois, un peu le mépris, etc. » Mais en fait, il est vraiment pas content.
Il n'y a pas dit ça, vraiment ?
Oui, il a écrit, il a fait un tweet là-dessus.
Es-tu sérieux ?
Oui, oui.
Sacramouille. Aïe, OK, il est craqué, là.
Oui, ben c'est parce que tu sais plus quoi dire, là. T'es vraiment mal pris, parce qu'il voit bien que, contrairement à tout ce qu'espérait Vladimir Poutine, l'Europe est plus solide que jamais. Puis, pire que ça, elle veut que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne. Ah, puis Menev a aussi dit, ouais, mais est-ce que vous savez si l'Ukraine va encore exister sur la carte dans 2 ans?
Ah,
tu vois
ouais.
Le genre.
Ben
oui, il a écrit ça. Alors évidemment, t'as envie de répondre, ouais, mais est-ce que vous savez si Vladimir Poutine va être encore au pouvoir dans 2 ans?
C'est, ou encore vivant.
C'est genre.
Ben oui. Bon,
Puis
il y a eu une discussion entre Vladimir et M. Xi?
Oui, en fait, on l'a su hier, parce que les Chinois ont publié une brève en disant que, en fait, Xi Jinping avait fait part de ses solutions pour solutionner la guerre en Ukraine. Et c'était à l'occasion, en fait, c'est Xi Jinping qui a appelé Vladimir Poutine à l'occasion de son anniversaire. Je crois que c'est son 70e anniversaire. Très gentil, n'est-ce pas, comme appel.
Ben oui.
Mais bon vœu, mon cher Vladimir. Puis en passant, faudrait bien régler cette guerre en Ukraine, parce que ça commence à faire mal à l'économie chinoise. Ça, c'est ce que les Chinois ont dit. Alors, ils n'ont pas dit que ça faisait mal à l'économie chinoise, mais on s'en doute. Les Russes ont publié, de leur côté, un certain compte-rendu de la conversation téléphonique où ils disent que les Chinois vont appuyer la Russie en matière de sécurité, vont appuyer la Russie en matière de finance, d'économie, d'industrie. Oui, mais on ne sait pas exactement ce qu'a été la conversation téléphonique entre les deux. Mon vieil ami aurait dit Xi Jinping. Ça, c'est une formule de politesse. Lao Pang, mon vieil ami chinois, et puis tout le monde s'appelle comme ça. Ça ne veut pas dire grand-chose en Chine. Donc, On ne sait pas exactement ce qui s'est dit là-dessus. Les Russes essaient de faire bien paraître cette conversation téléphonique. Mais moi, j'ai un peu l'impression que la Chine commence à s'impatienter devant cette guerre. Parce que cette guerre lui fait mal, par exemple avec le pétrole, avec les prix du pétrole qui s'envolent. Bien sûr, la Chine reçoit beaucoup de pétrole de Russie à rabais, mais quand même, ça fait mal pour d'autres matières premières de toutes sortes. C'est pas très bon pour l'économie chinoise, qui a des gros problèmes en ce moment, entre autres avec la COVID.
Bon, est-ce qu'on pourrait tirer un fil entre le Québec et l'Australie pour leur fournir de l'électricité, tu penses?
Un câble électrique sous-marin. Je pense que c'est un peu trop loin. Alors, on n'a pas encore la technologie pour ça. On perdrait trop d'énergie, malheureusement. Mmh. Mais ça serait chouette de faire ça. C'est une belle idée, Benoît. Tu as de l'avenir comme ingénieur. Hein. Tu as plein d'avenir dans toutes sortes de domaines.
De moins en moins, d'ailleurs.
Non, quand même. Mais quand même, il y a un gros problème en Australie en ce moment, c'est que il y a 8 millions de personnes qui sont dans le nouveau South Wales, si je préfère le New South Wales en anglais, à qui on a dit, écoutez, faut que vous coupiez absolument votre consommation d'électricité, au moins 2 heures par jour, la nuit, coupez l'électricité, s'il vous plaît, parce qu'on manque d'électricité en Australie et on risque de tomber en blackout. Nos installations risquent de sauter complètement.
Pourtant, ils ont du soleil. Pourquoi ils ne se tournent pas vers l'énergie solaire?
Ils en ont de l'énergie solaire, mais c'est que l'énergie solaire, ça produit... Pour le moment, en fait, le problème, c'est que les 3/4 de leur électricité proviennent du charbon.
Ah oui.
C'est très polluant, le charbon.
Ouais.
Le problème, et d'ailleurs, c'est après le pétrole, c'est malheureusement... il y a beaucoup d'électricité dans le monde qui est produite avec du charbon encore. Mm-hmm. Et donc, le problème, c'est que comme le pétrole coûte très cher, les prix du charbon aussi se sont envolés. Et en plus de ça... En Australie, il y a 2 mines de charbon qui ont été inondées. Ils ont eu des problèmes techniques et puis des problèmes d'entretien dans le quart de leur centrale de production électrique d'énergie dans le sud donc de l'Australie. Et donc, cette combinaison de problèmes techniques, de fermeture de mines, des prix qui s'envolent, fait en sorte que les prix de l'électricité en Australie commencent à atteindre des sommets et qu'en plus, on risque d'en manquer. Donc, le gouvernement essaie de faire quelque chose, mais tu vois, effectivement, le gouvernement australien aurait dû prévoir le coup, aurait dû mieux planifier. Il l'a pas fait. Et maintenant, l'Australie se retrouve avec de graves, graves problèmes énergétiques, avec des coûts qui sont immenses. Ça ne va pas aider les problèmes d'inflation, ça, en Australie. Tu peux bien le comprendre aussi. Tu subis, comme tout le monde, cette inflation mondiale qui vient de l'énergie.
Bon, et en Inde, il y a de nouvelles règles de recrutement militaire.
Ça, c'est extraordinaire. L'Inde est un pays qui... C'est un pays où la carrière militaire est très importante. Pour les jeunes qui ont entre 17 ans, finalement, et puis le début de la vingtaine. Parce qu'il y a un taux de chômage très, très élevé dans cette catégorie de la population. On parle d'un taux de chômage d'environ 20%. C'est possible de faire carrière là-dedans. On n'embauche pas tant de gens que ça. On en embauchait à peu près 60 000 par année parce qu'il y avait 60 000 personnes qui prenaient leur retraite. Le problème est le suivant. C'est qu'il y a tellement de gens maintenant dans l'armée indienne, il y a tellement de gens à la retraite que plus de 50% du budget militaire de l'Inde passe dans les retraites et dans les salaires. Et ça ennuie beaucoup le gouvernement indien et l'armée, parce que eux voudraient moderniser l'armée. Ils voudraient avoir de l'équipement plus moderne, acheter de l'équipement plus moderne, mais ils peuvent pas le faire parce que les salaires, encore une fois, et les retraites sont trop élevés. Donc, ils ont dit, voilà, ce que nous allons faire désormais, c'est que nous allons embaucher moins de recrues. Au lieu d'en embaucher 60 000, on va en embaucher 43 000. Les gens sont pas contents. Mais plus que ça, parmi les 43 000 qu'on a embauchés, on va en retenir, grosso modo, 25 %, à peu près 10 000. Et les gens disent, un instant, vous allez en retenir 10 000, comment ça? Ben oui, vous allez faire 4 ans dans l'armée, puis au bout de 4 ans, on va vous dire si oui ou non, on vous garde.
Oh.
Oui, c'est exactement ça que les gens disent. Oh, mais... qu'est-ce que c'est que ça? Et en Inde, les gens sont pas pacifiques en ce moment. La population a un esprit très volatile. Donc, on a bloqué des autoroutes avec des pneus qu'on fait brûler. Il y a des trains qui ont brûlé. Il y a des grandes manifestations, en particulier dans le nord de l'Inde. On ne veut pas entendre parler de ça. On trouve que c'est très injuste. Et surtout, les jeunes sont très, très mécontents de ça parce que, évidemment, c'est une voie de carrière qui est bouchée. Puis ils disent, qu'est-ce que c'est que ça? On va sacrifier 4 ans de notre vie, puis on n'aura même pas de carrière là-dedans. Et en même temps, les gens disent, oui, mais en plus, on a des problèmes avec la Chine et le Pakistan. La Chine est de plus en plus agressive. On a des problèmes historiques avec le Pakistan. Vous voulez diminuer la taille de l'armée? C'est pas une bonne idée. Puis il y a des analystes qui disent, qu'est-ce que c'est que ça? Vous voulez mettre, ça veut dire que vous allez mettre, pendant les prochaines années, vous allez mettre 30 000 jeunes dans la rue, des gens qui ont appris le maniement des armes, des techniques militaires. C'est pas une bonne idée de faire ça avec des gens qui n'auront pas nécessairement d'emploi, etc. Donc le gouvernement est extrêmement critiqué là-dessus, qu'il y a des élections qui s'en viennent, et ça se rajoute à ce dont je te parlais, à ces tensions entre nationalistes hindous et musulmans aussi. Je pense que on va avoir un été chaud en Inde, puis c'est pas juste du point de vue du climat.
Température, hein. Non, bon, ben non, parfait. Vraiment. Écoute, on se reparle demain pour la dernière, Loïc. Alors, sois en forme.
Oui, absolument, parfait. Benoît. Toi aussi. Bon. Allez, à demain.
Merci. Salut.